Manon Debaille, bonjour.
Bonjour.
Ce projet, La Falaise, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter comment est-ce qu'il est né? Beaucoup d'albums, de premiers albums de jeunes autrices, de jeunes auteurs sont des projets de fin d'études qui sont retravaillés. Est-ce que c'est le cas pour La Falaise?
Oui, c'est le cas. C'était mon premier diplôme aux arts décoratifs de Strasbourg. Donc, je suis sortie à peu près 4 ans. Et c'est un projet que j'avais montré une quinzaine de pages pour mon diplôme. Et ensuite, je m'étais dit en sortant de l'école, je vais le finir en 8 mois, je vais l'envoyer à des éditeurs et ça sera plié. Et au final, je l'ai abandonné pendant 2 ans. Et avant de m'y remettre, quand je sentais que j'arriverais pas à passer à autre chose et qu'il fallait que je le fasse, donc j'ai laissé passer 2 ans et je m'y suis remise.
Et qu'est-ce qui a fait que vous avez laissé passer 2 ans? C'est que vous n'arriviez plus à avancer, que vous aviez l'impression justement d'avoir travaillé pour le diplôme, d'avoir poussé au bout de quelque chose et de vous rendre compte que ce n'était pas complet, mais de plus réussir à rentrer dedans. Qu'est-ce qui a fait que vous vous étiez arrêté?
Bah, je crois que dans notre promo et dans les promos d'après, il y a un peu ce symptôme de ce qu'on appelle la sixième année, qui est l'année de la déprime, où il y a une sorte de... On sort de l'école et il y a une sorte de gouffre, un petit peu de la vie professionnelle. Et on se rend compte qu'il va falloir gagner sa vie et gagner sa vie avec sa passion. Et je trouve que ce rapport entre... continuer à aimer de dessiner, mais en même temps il faut que ça nous permette de payer les factures, bah c'est pas évident à gérer. Et en fait, la BD, j'étais plus... Enfin, j'arrivais plus, et puis pendant l'école, il y a quand même des profs qui nous guident et tout, alors là, je me suis retrouvée toute seule. Puis même, je l'avais montré un moment à un éditeur, dont je dirais pas le nom, qui l'avait descendu en me disant « mais ça marche pas, je vois pas comment ça pourrait marcher un jour, etc. » Du coup, je l'avais vraiment laissé de côté en me disant c'est de la merde, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on est hyper réceptif aux critiques et on a du mal à se rendre compte que c'est pas parce qu'un éditeur descend un bouquin que c'est un bouquin de merde forcément et qu'il y aura. Voilà, il y a plusieurs avis et au bout d'un moment, je me suis dit bon, moi j'ai l'impression que ça peut être bien donc il faut que je le fasse.
Et quand vous êtes. Remise dedans, que vous avez recommencé. À quel moment est-ce que vous avez commencé à envoyer des dossiers aux éditeurs? Est-ce que vous avez attendu d'être très avancé? Est-ce que vous avez dit, bon, j'ai besoin d'être accompagné dans la réalisation de l'album et il va me falloir quelqu'un à mes côtés pour pouvoir avancer davantage?
Moi, j'ai eu de la chance. Enfin, quand je me suis remise vraiment à fond et j'ai fait un storyboard, ce que je faisais pas avant, parce que je me disais, le storyboard, c'est trop chiant, de toute façon, j'ai pas envie de passer par là. Mais en fait, il y avait vraiment des problèmes de rythme quand même dans l'histoire, et puis ça marchait pas. Donc je suis partie sur un storyboard, et quand j'en avais fait peut-être les 3/4, j'ai reçu un message de Max de Radigas qui m'a dit qu'il avait vu des planches et qu'il trouvait ça chouette et qu'il voulait en savoir plus. Donc au final, j'ai eu de la chance, puisque c'est mon éditeur qui est venu me chercher, qui est Max de Radigas, qui est directeur de collection chez Sarbacane.
Et comment est-ce qu'il t'a accompagné, sans rentrer bien évidemment dans le détail, mais c'est justement sur ces questions de rythme que son aide a été précieuse?
Ce qui est super avec Max, c'est que je trouve qu'il a tout de suite compris ce que je voulais faire. Et quand j'ai signé le contrat avec Sarbacane, ils m'ont dit « bon, bah, on le signe, mais il y aura des choses à retravailler ». Ce qui était... j'étais contente qu'on me dise ça, parce que c'est vrai que... Enfin, moi, j'attendais aussi qu'il y ait des gens qui me donnent un retour, parce que quand on a la tête dans le guidon, on se rend pas compte des problèmes. Et effectivement, il m'a dit « cette scène, ça marche bien, cette scène, ça marche pas ». Enfin, j'ai essayé de prendre en compte ces critiques. Et il y a des scènes où je me disais « ouais, mais quand même, celle-ci, je l'aime bien ». Donc en fait, effectivement, c'était pas forcément la scène le problème, mais les pages d'avant qui menaient à cette scène. Enfin, et on a retravaillé ensemble. Et ce qui était vraiment chouette avec lui, c'est que tout ce qu'il me disait, enfin, j'avais l'impression que ça touchait juste et qu'il tombait pas à côté de la plaque. Et je pense que c'est parce que aussi il a une expérience d'auteur, et notamment il avait fait plein de livres sur l'adolescence, donc il sait de quoi il parle.
Et on va bien sûr revenir sur cette question de l'adolescence et ce qui fondamentalement vous traversez, vous travaillez pour que vous ayez absolument envie de mener ce projet à terme. Et vous parliez de vos études. La bande dessinée, c'est quelque chose que vous voulez faire depuis que vous êtes petite, ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé plus tard?
Non, pas du tout. Je fais pas du tout partie des auteurs et autrices qui disent « je fais de la BD depuis que j'ai 5 ans ». Moi, ce que je voulais faire, c'était raconter des histoires. Donc, au début, je voulais être écrivaine. Puis, enfin, bref, j'ai fait toute une gamme de métiers où on pouvait raconter des histoires. Et puis, je suis rentrée à l'école Estienne, en me disant je vais faire du film d'animation pour Pixar, et c'est un peu le truc qu'on se dit quand on sort du lycée et qu'on sait pas vers où aller. Et je me suis rendu compte que ça serait pas du tout pour moi, et qu'en fait il y avait pas la place pour raconter des histoires, ça allait être que de la technique. Et je suis entrée en illustration, où je me suis dit je vais faire des livres illustrés. C'était juste un sujet de cours sur la BD, où là je me suis dit ah mais en fait c'est cette manière d'expression qui me convient le mieux, j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Mais du coup j'avais peut-être 19-20 ans la première fois que j'ai fait une BD. Et après je me suis tout de suite dit je vais faire mon projet de diplôme à Estienne, qui était d'une cinquantaine de pages, et ça a été, je lisais même pas énormément, presque pas de BD à ce moment-là, donc c'était un peu chouette parce que j'ai tout découvert en même temps, faire la BD, lire des BD, enfin c'était un gros package.
Est-ce qu'il y a dans cette découverte justement des bandes dessinées qui ont été plus marquantes que d'autres et qui ont été déterminantes dans votre envie de vous aussi en faire?
Bah, je pense qu'au départ il y a eu Blotch, Vitesse Moderne. Parce que je me suis dit, on peut faire des livres qui racontent pas forcément une histoire, enfin, qui reste un peu évanescente, où justement il y a un peu, enfin, chez Blotch, il y a les pulsions qui prennent beaucoup de place. Et ensuite, ça a été Jimmy Corrigan de Chris Ware. Donc la première fois que je l'ai lu, j'ai essayé de le lire, j'ai détesté, je trouvais les dessins moches, je trouvais ça trop déprimant. Et puis un week-end, c'était le week-end en plus des attentats Charlie Hebdo, j'avais découvert que j'avais des cafards chez moi, enfin, c'était l'ambiance idéale pour, pour le lire. Et je me suis dit, c'est dingue, il a tout compris sur comment en BD représenter l'intériorité des personnages. Et c'est ça que je me suis dit, j'ai envie d'essayer de faire la même chose, trouver des solutions pour montrer ce qu'on ne peut pas montrer justement, c'est-à-dire l'intériorité, l'inconscient, les pulsions, les sentiments, voilà.
La bande dessinée, c'est quelque chose d'assez solitaire, même si on voit que votre éditeur a été présent à vos côtés. Mais j'ai l'impression que justement, le collectif est très important pour vous. Vous avez cofondé un collectif de micro-édition. Vous travaillez en atelier. C'est quelque chose qui est important, le collectif, dans votre pratique de la bande dessinée?
Bah, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un retour sur les histoires que je fais, puisque j'essaye de mettre de l'émotion, et quand la première fois, on se dit que ça marche, mais en fait, une fois qu'on relit la scène qu'on a écrite, l'émotion qu'on voulait transmettre, on la ressent plus. Donc j'ai vraiment besoin de pouvoir le montrer à pas mal de gens, et d'avoir leur avis, leur retour. Et aussi, je trouve ça trop déprimant d'être seule, et j'ai quand même envie d'avoir un métier un peu stimulant, et je trouve que la solitude, au final, c'est pas super stimulant. Et il y a cette phrase de Chris Ware qui m'avait marqué justement au début quand j'ai découvert, qui dit un truc du genre le matin, je me mets à mon bureau, et le soir, je lève la tête, 10 ans ont passé, tous mes amis sont morts ou se sont mariés, et je me suis dit, c'est absolument pas ce que je veux vivre. Donc oui, c'est important, et puis je pense que... Ma génération d'autrices et d'auteurs, en plus, notamment d'autrices, on serre un peu les coudes. Et puis c'est vraiment important de se sentir accompagnée quand on est une jeune autrice. On se dit, là, il y a plein de... Léa Muraviec, par exemple, Lisa Blumen, des copines de ma génération. Et c'est super chouette de se sentir accompagnée par d'autres autrices et pas seule.
Et c'est aussi l'impression que ça donne, je trouve... De l'extérieur, sans être dans les ateliers, sans être dans les échanges. C'est aussi à Colomiers, le fait qu'il y ait une exposition qui rassemble justement Léa Muraviec, vos planches, Antoine Maillard. Il y a eu à la Galerie Arts Factory une exposition Newcomer, avec des planches aussi de toute cette génération. Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, qu'il y a quelque chose d'une nouvelle génération et qu'on peut vraiment identifier comme telle?
Moi, je ne m'y connais pas assez en histoire de la BD pour affirmer ça, mais d'un point de vue personnel, j'ai l'impression d'être dans une dynamique, en tout cas générationnelle. Après, je ne sais pas si ça apporte, notre génération apporte du renouveau, parce que vraiment, je n'ai pas une culture BD assez large, mais en tout cas, de l'intérieur, ça donne l'impression de quelque chose d'extrêmement motivant et dynamique. Puis je pense quand même que l'arrivée de plus de, justement, ce que j'ai d'auteurs et d'autrices, ça ajoute forcément quelque chose de nouveau dans les livres proposés.
Vous réalisez aussi pas mal d'illustrations pour la presse. On va dans quelques instants revenir sur l'histoire de La Falaise, mais j'aimerais qu'on termine là-dessus, sur l'illustration. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que dessinatrice, en tant qu'illustratrice, au-delà, j'imagine bien, une considération très pratico-pratique qui est qu'effectivement, l'illustration est sans doute plus rémunérateur que la bande dessinée si on prend en considération le temps passé sur l'œuvre. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail-là d'illustration pour la presse ?
Bah, la BD, c'est vraiment un marathon. Et ce que j'aime bien dans l'illustration de presse, c'est que c'est un sprint et que ça change vraiment le... Enfin, il y a une montée d'adrénaline quand on a une commande où il faut fournir un dessin pour deux jours, voire un jour plus tard, et que ça donne un coup de fouet et ça réveille vraiment. Et moi, j'aime bien ce côté où bon, je panique un peu à chaque fois, mais où il faut fournir quelque chose très rapidement et le dessin sort dans la presse 3 jours après et on peut le voir. Et enfin, il y a un sentiment d'accomplissement qui arrive très rapidement, alors que pour la BD, il a fallu attendre 2 ans avant qu'elle sorte. Même quand elle sort, il se passe rien de spécifique. Donc j'aime bien avoir des différences de rythme. Je trouve que ça permet de varier et d'être toujours un petit peu sollicité.
Justement, ce long temps passé sur la falaise, on le disait, ça parle de l'adolescence, un sujet que Max de Radiguès explore effectivement lui aussi dans ses albums. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans l'adolescence ? C'est vrai qu'il y a plusieurs autrices, plusieurs auteurs qui sont connus pour explorer cet âge de la vie. Je pense à Riyad Sattouf, par exemple, qui explique à quel point ça le fascine l'adolescence parce qu'on commence à voir l'adulte que devient l'enfant. Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans ?
Bah, je pense que c'est la même chose que Riyad Sattouf, mais avec un résultat très différent. J'adore son travail, mais effectivement, Enfin, l'adolescence, je trouve, c'est un âge hyper émouvant, très beau et fragile, où effectivement, l'enfant devient une personne et commence à faire ses propres choix. Et on peut le voir de manière assez... avec plein de tendresse et assez ironique, comme le fait Riyad Sattouf. Et moi, j'avais envie d'être avec les ados et pas de porter un regard d'adulte qui peut être moqueur, mais... Enfin, Riyad Sattouf, c'est pas moqueur, mais ça marche hyper bien. Mais voilà, je voulais être avec les ados. Et bah, c'est vrai que ça me touche vachement comme âge. Et puis même, j'aime bien. Enfin, j'ai souvent fait des ateliers avec des ados. Enfin, je suis hyper émue par l'espèce de métamorphose qui arrive à cet âge-là. Et aussi, je pense que quand il y a beaucoup de premiers livres d'auteurs qui parlent de l'adolescence, parce qu'on n'est pas tout à fait fini quand on commence notre BD, et que je pense que c'est une bonne façon de rentrer dans la bande dessinée en parlant de quelque chose qu'on connaît quand même assez bien, enfin, voire très bien.
Et vos deux personnages, Astrid et Charlie, sont très différentes. C'est aussi ça qui est émouvant dans l'album, c'est de voir que ce mal-être qui peut nous toucher à l'adolescence, il n'y a pas de personnalité type qui peut être touchée, et que c'est quelque chose de beaucoup plus universel que ça.
Oui, après c'est vrai que les deux personnages principaux, c'est un peu deux facettes de moi à l'adolescence. Donc d'un côté, il y a celle qui passe son temps à écrire et qui est un peu solitaire, et l'autre qui porte en elle une rage impossible à contenir. Et c'est vrai que je me suis un peu inspirée de ces deux facettes de moi. Et effectivement, j'avais envie que le personnage principal, qui est Charlie, soit pas forcément le personnage pour lequel on a l'empathie le plus immédiatement, puisque c'est celle qui fait partie du groupe qui harcèle Astrid, mais d'essayer de comprendre comment le mal-être et la violence qu'elle reçoit de son environnement peut aussi pousser justement à avoir des comportements assez peu empathiques de sa part, et comment, en la mettant dans des situations où elle doit faire des choix, elle arrive à grandir et à s'affirmer aussi en tant que personne.
Et comment est-ce que vous les avez trouvés physiquement, vos deux personnages, ces deux facettes de vous-même, entre la petite blonde aux cheveux longs, Charlie qui a plutôt les cheveux courts, brunes?
Charlie, c'est vraiment moi, ado. Et Astrid, j'avais envie que, bah, de les construire en opposition. Donc déjà, j'avais envie qu'elle ait son regard un peu éteint et un peu lunaire. Je lui ai fait un petit strabisme pour qu'elle ait tout le temps l'air un peu ailleurs. Et puis, je voulais qu'elle ait ce côté vraiment fascinant et presque irréel pour Charlie, d'une sorte de petite fée, quoi, un peu magique, et en même temps qu'elle ait cette facette ingrate avec un gros nez, des vêtements qui sont pas ceux qu'elle devrait porter à son âge. On dirait qu'elle porte des vêtements d'enfant de 7 ans, quoi, et d'avoir ce mélange fascination et ingratitude chez Astrid, tandis que Charlie, je voulais qu'au contraire, ça soit quelqu'un qui soit libre de ses mouvements. Donc elle a des vêtements toujours assez amples et courts parce qu'elle doit pouvoir se battre. Et vraiment, ce qui était important, c'est qu'elle a tout le temps ses sourcils hyper foncés parce qu'elle se déride pas, quoi. Il n'y a pas d'ironie chez elle. Tout est pris au premier degré et tout est très sérieux pour elle.
Et comment est-ce que vous avez trouvé votre technique pour cet album ? Cet album est réalisé au crayon de couleur. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'était le cas déjà dès le projet de diplôme ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé après et qui, pour le coup, fonctionne extrêmement bien ? C'est-à-dire ça donne quelque chose de très doux à une histoire qui, finalement, est assez dure et qui, finalement, correspond parfaitement, en tout cas, moi, je trouve, en tant que lectrice, à ce passage de la vie. Comment est-ce que vous l'avez pensé, ce choix technique ?
En fait, je ne l'ai pas pensé pour cette histoire. En arrivant aux Arts Déco de Strasbourg, je dessinais à l'encre et je mettais en couleur à l'ordi. Et en fait, ça me faisait chier. Enfin, je ne prenais plus aucun plaisir. Donc je me suis dit, si tu arrêtes de prendre du plaisir dans le dessin à 20 ans, c'est quand même un problème. Donc j'ai trouvé un peu cette technique du crayon de couleur qui permet de tout faire, que ce soit le croquis jusqu'au final, tout sur la même planche, et de pouvoir revenir, gommer. Enfin, j'ai pas besoin d'avoir des couleurs prédéfinies au départ. Je peux un peu improviser, et ça, j'aime bien ce côté improvisation et un peu méditatif. Et c'est vrai que ça marche bien pour l'histoire, ce contraste, mais c'était pas volontaire, parce que quand je fais du dessin par ailleurs pour la presse ou quoi, j'ai toujours cette technique, même si là, pour la BD, je voulais quelque chose d'extrêmement rond, et les personnages sont très ronds, en contraste avec justement la violence, et du coup, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui m'ont pris pour un livre jeunesse, ou alors j'ai eu des retours, on dirait un dessin d'enfant, mais un enfant qui dessinerait bien, du coup je ne savais pas comment le prendre. Et je pense que pour le prochain livre, ça sera aussi cette technique, puisque c'est celle auquel je prends le plus de plaisir, et je pense que quand on passe un an et demi à dessiner, il ne faut vraiment pas oublier le plaisir.
C'est ça, faut s'amuser. On le sent aussi dans le découpage, ce plaisir-là. En tout cas, je ne sais pas s'il est réel ou si, en tout cas, vous jouez très bien la comédie avec vos crayons. Mais on évoquait les cheveux, je pense à cette scène où leurs cheveux se mêlent et où il y a un vrai découpage qui est extrêmement intéressant et qui permet d'apporter un peu, justement, une dimension aussi un peu onirique, parce que même si c'est une scène qui est très réaliste, ça apporte une dimension supplémentaire, en tout cas quelque chose d'autre que la pure narration. En tout cas, vous faites vraiment attention à ça aussi dans l'album, c'est-à-dire qu'il y a des vraies trouvailles graphiques et qu'il y a un enjeu aussi à cet endroit-là et pas uniquement à l'endroit de l'histoire.
Ça se fait de manière assez intuitive. C'est vrai que c'est peut-être lié au fait que j'ai jamais lu beaucoup de bandes dessinées jusqu'à... Enfin, maintenant j'en lis, mais avant d'en faire, et que je choisis de manière vraiment intuitive, sans me poser la question de trop de la narration, de code ou quoi que ce soit. Et puis après, mes éditeurs reviennent dessus si on comprend pas, mais voilà, je dessine un peu comme je pense je pense les scènes, et je fais le découpage en même temps avec les dialogues. Enfin, tout se fait en même temps. Et c'est vrai pour le côté fantastique, c'est quelque chose d'important dans l'histoire qui est au final dans une réalité assez terre à terre. Et je voulais que ces envolées fantastiques et que ce soit un peu le moment aussi pour moi de m'amuser et d'exprimer justement ce que je disais, l'intériorité des personnages, et de trouver des... Voilà.
Et on évoquait tout à l'heure les bandes dessinées que vous aviez aimé quand vous avez découvert la bande dessinée, en tout cas qui ont été des chocs. Est-ce que pendant la réalisation de cet album, il y a des œuvres qui vous ont accompagné, que ce soit des bandes dessinées ou bien des films, ou est-ce qu'au contraire, vous faites partie de ces autrices, de ces auteurs qui préfèrent ne plus rien lire, ne plus rien regarder quand ils sont en train de réaliser un album pour justement ne pas avoir en tête les créations des autres?
Bah, j'ai pas lu beaucoup de bandes dessinées pendant la réalisation d'albums, mais par contre, j'ai lu beaucoup de livres et il y a pas mal de livres qui m'ont inspirée. Surtout dans la littérature américaine où il y a un peu justement le personnage de Charlie qui est presque un archétype de la littérature américaine qui est la jeune fille en colère et donc il y a des romans comme un qui est sorti, enfin My Absolute Darling de Gabriel Tallon où il y a le personnage c'est Turtle je crois qui m'a beaucoup inspiré pour Charlie même si j'avais déjà eu l'idée de Charlie mais ça a nourri le personnage puis il y a eu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, il y a le personnage de Mick ou de Mike, je sais pas comment elle s'appelle. Puis récemment, Betty, j'ai oublié le nom de l'autrice, qui est un super livre, avec pareil une ado qui se rebelle un petit peu sur, bah, contre sa famille, mais aussi contre le patriarcat et contre les codes qu'on lui a donnés à suivre à la naissance, quoi. Donc ça, c'était vraiment des inspirations. Et puis dans le cinéma, pas tellement, même si y a la série Top of the Lake, il y a le personnage de Tui, qui est un personnage qui m'a pas mal inspirée. Et puis les décors aussi, parce que je voulais que la nature ait une place vraiment importante dans le livre et que ce soit un personnage, presque un personnage, et qui permette d'accentuer l'opposition entre le collège, qui est un milieu... où tout est social et la nature où on se retrouve seul face à soi-même et face à ses sentiments.
Et vous évoquiez le fait tout à l'heure quand on parlait du crayon de couleur, vous disiez je vais continuer aussi au crayon de couleur, c'est-à-dire que vous savez déjà sur quoi vous allez repartir, ou en tout cas peut-être que vous êtes d'ailleurs déjà reparti dans une nouvelle histoire.
Bah, je commence à écrire, j'ai commencé, enfin c'est pas évident parce que je me suis dit je veux pas mettre... Entre les 2 ans où j'ai pas travaillé sur l'histoire, puis les 2 ans où je me suis remise dessus, je me suis dit, j'ai pas envie de passer 5 ans à errer. Donc j'ai essayé de me remettre très vite à l'écriture, mais c'est pas évident, puisque retrouver l'histoire où on se dit, bon, bah, c'est celle-ci qui me motive pour les 2 prochaines années, j'ai envie de vivre avec ces personnages pendant 2 ans. Donc j'avais écrit, mais j'ai abandonné, je suis repartie sur autre chose. Et je ne sais pas si je vais continuer sur ça ou pas, mais en tout cas, oui, je commence à essayer vraiment d'enchaîner rapidement et de ne pas laisser le temps et la mélancolie me saisir. Mais c'est trop tôt pour en parler.
Et est-ce que, vous, comme vous êtes en atelier, est-ce que vous expérimentez aussi des récits courts, des choses qui vous permettent justement d'après partir, repartir sur des récits longs? On a vu, il y a l'illustration qui permet ça aussi, qui permet d'offrir des respirations et d'être dans de la création dans un autre timing. Parce que j'imagine que quand on repart, vous le disiez, on doit repartir pour 2 ans, un an et demi, 2 ans, donc il faut adorer ces personnages, il faut avoir très envie de le faire. Mais j'imagine qu'il faut tester tout ça et qu'il y a des choses qui peut-être, un peu comme ce qui s'est passé pour l'album là, c'est-à-dire ont besoin de dormir pendant 1 ou 2 ans, sont dans un carnet, reviennent, ont été peut-être publiés sous forme d'une histoire courte et puis finalement on se rend compte qu'on a du mal à se séparer des personnages et qu'on a envie de les développer. Comment est-ce que ça se passe, toute cette création pour vous? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des petits bouts d'histoire un peu partout? Est-ce que au contraire, à chaque fois, vous essayez de pousser au maximum et puis vous voyez où est-ce que ça mène? Comment est-ce que ça se passe chez vous, la création?
Bah, j'ai pas mal de petits bouts d'histoire un peu partout, mais c'est vrai que justement, au moment de me remettre à l'écriture, je me suis dit qu'aucune des histoires que j'avais pensées pendant les années où j'ai fait La Falaise me motivait pour le moment. Et juste après La Falaise, j'en pouvais plus. Hein. J'étais à la fin, j'étais épuisée. Et je suis partie sur une série d'illustrations format A3 qui ont été ensuite montrées à Art Factory. Mais vraiment sans but précis, en me laissant un peu porter chaque image, en amener à une autre, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt cette série auquel je repense et qui m'inspire pour l'histoire à venir, enfin peut-être. Qu'est-ce que je disais?
Que c'est cette série d'images qui
t'inspire. Oui, c'est cette série. Je trouve que l'illustration, c'est vraiment important dans ma pratique. C'est pas du tout quelque chose que je mets en dessous de la bande dessinée. Enfin, c'est vraiment parallèle. Et en fait, c'est pouvoir faire des images sans pression en me disant qu'elles ne sont pas de finalité à apparaître dans un livre. ça m'a permis de penser vraiment, sans m'en rendre compte, de développer un univers, de créer des relations entre des personnages, puisque quand je fais de l'illustration, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de m'imaginer qui est qui a fait quoi, comment elle s'entend avec... avec machin à côté, et donc c'est ça qui m'inspire, et c'est vrai que la micro-édition, ça permet ça, de tester des choses, d'essayer des choses, d'y revenir ou pas, mais en tout cas de créer des respirations, bah, un peu comme le dessin de presse dans la pratique, et de rythmer un petit peu sa vie.
Merci beaucoup, Manon.
De rien, merci.